bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, un nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de petits sujets. Comme d'habitude, on essaye de faire quelque chose, on essaye de faire quelque chose de varié. Le podcast du jour, on va traiter rapidement plusieurs petits points. Alors on va parler du Miracle Morning, on va parler de l'OMS et d'une nouvelle direction qu'ils vont prendre par rapport à la santé. On va parler également de l'Association canadienne du diabète qui reconnaît l'intérêt des régimes pauvres en glucides. On va parler du confinement qui offre un moyen d'exercer notre capacité d'inhibition. Du fait de manger des glucides tard le soir. On va parler du nouvel acteur qui va jouer Batman et de la musculation. On va parler le plus gros sujet qui sera surtout sur le vélo électrique. Ça sera, on va dire, entre guillemets, le dossier du podcast. Et tous les autres sujets sont des sujets un petit peu plus légers. Voilà. Donc, avant de démarrer l'épisode, je voulais juste vous préciser, la petite page de pub comme d'habitude, que j'ai sorti ce week-end une vidéo, un cours, une formation, un webinaire, je sais pas comment vous préférez l'appeler, mais en tout cas pour tous les VIP, tous ceux qui accèdent, on va dire, aux profondeurs de mon site internet et qui souhaitent un petit peu se former en continu, eh ben ils ont eu accès ce week-end à un contenu sur le cortisol et la musculation. Comment prendre le contrôle? Parce que beaucoup de personnes parlent de réduire le cortisol. Moi, je préfère parler de le synchroniser, de le réguler, de prendre une forme de contrôle dessus. Pour petit rappel, le cortisol, c'est pourquoi il est diabolisé, surtout dans le monde de la musculation, tout simplement parce que qui dit cortisol dit souvent un stress, donc on parle aussi de stress chronique, donc de stress permanent qui générait une production constante, même modeste, mais constante de cortisol, et donc du coup qui aurait des effets plutôt catabolisants, donc au niveau de la masse musculaire, mais également qui ferait prendre du gras au niveau de la sphère abdominale, et enfin bon, ça je l'explique en partie à cause des récepteurs au cortisol qu'on a dans la graisse viscérale, au niveau du tronc. Mais bon, bref, on parle de tout ça dans la formation. Je parle du rôle méconnu du cortisol pour l'homme, du sentiment de dominance aussi qui est lié à la testostérone et aussi du cortisol, et savoir le ratio en fait qu'il faut avoir pour avoir ce sentiment de dominance qui est pas négatif, hein, en fait, hein, c'est pour se sentir mieux, pour se sentir capable, etc. Mécanisme hormonal de la prise de graisse abdominale, comment devenir, on va dire, plus mâle alpha entre guillemets, ou leader, ce sont des mots qu'on entend souvent, mais en fait c'est juste pour aller plus dans le sens de la masculinité, on va dire. Mais ça marche aussi pour les femmes d'ailleurs, en ne partant de rien ou en suivant une suite d'étapes, etc. J'ai mis en fait 14 outils pour resynchroniser son cortisol. C'est des outils du quotidien, c'est pas des outils à base de compléments alimentaires ou autres, c'est vraiment des outils du quotidien, c'est le but. On parle aussi du jeûne et des entraînements, du jeûne intermittent. On parle de du côté obscur de la caféine, mais également du côté, on va dire, plutôt positif. Et d'ailleurs, ça, il y a vraiment quelque chose qui m'a surpris par rapport à la caféine, parce que c'est souvent associé au cortisol, et il y a quelque chose de plutôt positif finalement avec la caféine, et j'en parle. Et bon, bref, voilà, vous avez le support PDF comme d'habitude avec le plan de la formation et la formation qui dure environ une heure, quelque chose comme ça, que vous pouvez écouter ou regarder à partir du moment où vous êtes VIP. Donc voilà, c'est en lien en description, c'est directement accessible pour tous les VIP. Sachez une chose, je le répète à chaque fois, mais ce n'est pas, quand vous y accédez, vous n'avez pas accès que à cette formation, vous avez accès à celle-là, mais aussi à toutes les autres, c'est-à-dire depuis 2013, toutes celles que j'ai pu faire, Pour à peine 9,99€ pour un mois, vous avez accès à tout ce contenu. Aujourd'hui, je pense que c'est tous ceux qui sont VIP sont convaincus, ceux qui ne le sont pas se demandent comment c'est possible, mais je vous garantis que vous serez pas déçus, et je suis assez sûr de moi de ce côté-là. Voilà, bref. On passe à la partie podcast. Donc la partie des podcasts, c'est plus, on va dire, on survole les sujets, on rentre pas trop en profondeur, mais au moins ça vous donne un petit peu des pistes sur l'actualité et puis des petites données comme ça que je récolte à droite et à gauche dans les news. Voilà. Alors, on démarre avec Miracle Morning. Alors Miracle Morning, juste le titre que j'ai trouvé sur le site psychologie.com. Miracle Morning, se lever plus tôt pour vivre mieux. C'était il y avait une interview alors je me rappelle plus du nom de l'auteur, si c'est Al Elrod, qui faisait une interview, et moi j'ai noté juste une citation dans le texte qui disait pourquoi le matin plutôt que le soir. Je vais juste faire un bref rappel. Alors Miracle Morning, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai même écouté, qui a des pistes intéressantes, mais qu'il faut savoir prendre suffisamment à la légère pour pas trop tomber dans le côté c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Je m'explique. Le Miracle Morning, entre guillemets, ça reste un livre de développement personnel, mais également un livre qui vous demande d'appliquer un certain nombre de règles, pour être en forme, pour être plus productif, pour vous sortir un petit peu du brouillard que vous pouvez vivre dans vos journées. Donc moi, je trouve que c'est une bonne introduction à certains bons réflexes, mais ça reste néanmoins un livre de règles et de développement personnel. Et par rapport à toutes ces... En fait, là, c'est encore une fois, c'est un point de vue personnel, mais il y a aujourd'hui, on va dire que ma génération, donc moi, je crois que je fais partie de la génération de mémoire. Alors... Attendez, je sors parce que il me faut un petit rappel. Moi, je fais partie de la génération Y, donc née entre 80 et 95. Et notre génération, on a plutôt tendance à remettre en cause l'autorité. On est plutôt ouvert d'esprit, mais on a horreur d'une chose, c'est que quelqu'un nous impose quelque chose. Mais finalement, on est aussi la génération qui cherche le plus de règles dans les articles qu'on lit. Par exemple, les 12 règles pour vivre, plus agréablement, les 12 règles ou les 15 règles pour perdre la graisse ici, les 23 astuces ou règles pour développer sa masse musculaire en travaillant à domicile, etc. Donc, on est attiré par les règles. Alors que on souhaiterait un petit peu s'émanciper aussi de ces règles-là qu'on nous impose. Et ça, qui est intéressant, c'est que moi, ma conclusion, c'est qu'en fait, on n'est pas contre l'autorité, mais en fait, on veut simplement la choisir. C'est-à-dire qu'on veut pas qu'on nous impose comme ça, une autorité nous impose des règles à suivre. On veut nous-mêmes choisir notre mentor et la personne d'autorité que l'on juge, je sais pas, pertinente ou autre, donc du coup, pour pouvoir suivre ces règles. Et je pense que ça traduit un petit peu une quête d'une image d'autorité que l'on pourrait choisir. Donc en fait, celle qu'on nous donne par défaut, c'est-à-dire les médias, la politique, ou je sais pas, enfin, toutes ces figures qui peuvent faire autorité ou qui ont pu faire autorité il y a des années et aujourd'hui essayent de continuer, nous, ça ne nous convainc pas, ça ne fonctionne pas pour nous, ça ne vibre pas, ça ne nous fait pas résonner. Et en fait, on est en quête de trouver notre mentor, nos figures d'autorité pour suivre leurs règles. Et je pense que c'est ça la différence, et c'est pour ça que autant de bouquins de développement personnel, et regardez dans les best-sellers, souvent, ça traite de règles ou d'astuces avec des chiffres, etc. Et c'est le côté paradoxal qui s'explique en fait par le côté où on a envie de choisir les personnes qu'on a envie d'écouter finalement. Donc bref, je reviens à l'article. Miracle Morning, se lever plus tôt pour vivre mieux. Donc je cite, pourquoi le matin plutôt que le soir? Certains exercices du Miracle Morning peuvent être effectués le soir pour les couches tard, mais Al Elrod précise que seule une pratique matinale permet de bénéficier au maximum des effets de la méthode, donc des bienfaits de la méthode même. Par exemple, faire de l'exercice physique le soir retarde l'endormissement, alors que le matin, cela procure du tonus et de l'énergie. De même, si la méditation permet d'évacuer le stress et de stimuler les neurones, profitez de ces bienfaits tout au long de la journée plutôt que lorsque vous dormez. Alors, moi j'ai testé, hein, je peux en parler parce que j'ai testé, ceux qui m'ont suivi, je crois que c'était fin 2018, quelque chose comme ça, j'avais fait une expérience de méditation quotidienne, donc tous les matins je méditais et tout ça, donc pendant 90, je fais 90 séances en fait, et j'ai trouvé des effets positifs, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi je suis plutôt du matin. Donc moi, que veut dire être du matin ou du soir ? Être du matin, c'est se lever sans trop de difficultés, mais surtout ressentir qu'on est très productif, etc. dans la matinée. Et plutôt pas tôt et manque de productivité, manque de concentration, plutôt l'après-midi, surtout en fin de journée. Moi, c'est plutôt mon cas, mais il y a des personnes chez qui c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que le matin, ils sont improductifs, ils n'arrivent pas à se lever, et par contre, ils découvrent une forte productivité et une forte énergie en milieu d'après-midi jusqu'à la fin de la journée. Donc, je ne sais plus où je lisais ça, mais ça a été montré que le monde actuel est plutôt prévu pour les gens du matin. Pourquoi ? Parce que on se lève pas tous à la même heure, mais je veux dire les horaires classiques de travail, classiques je parle, hein, c'est 8h-17h. Donc du coup, on va forcer des gens du soir à essayer d'être productifs le matin, et quand ils vont commencer à avoir leur hausse de productivité, donc de milieu d'après-midi jusqu'à fin de soirée, on va les couper en plein vol parce que à 17h, le travail est terminé. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple des écrivains, des artistes, des autodidactes, etc., qui travaillent beaucoup en fin de journée, parce que c'est là où ils ont de l'inspiration, c'est là où ils ont de la concentration, etc. Et ils ne peuvent pas finalement se lever tôt le matin, ils n'y arrivent pas, et en fait, c'est un peu aller contre leur cycle. Alors les professionnels du sommeil vous diront que, en fait, notre cycle de sommeil n'est pas exactement de 24 heures, enfin, c'est pas notre rythme de sommeil, c'est notre rythme circadien, n'est pas exactement de 24 heures, mais un petit peu plus, et chez certains, même beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est pas non plus 30 heures, mais je veux dire, c'est plus que 24 heures. Et donc, du coup, c'est des gens qui ont tendance à plutôt être retardés. Et quand je dis retardés, ça veut dire qu'ils vont avoir leur période d'éveil plus tardivement, donc éveil, on va dire, de concentration, de vigilance, etc., plus tardivement dans la journée que ceux qui sont du matin. Et donc, ces conseils où il faudrait pour tout le monde faire les choses le matin, eh ben non, chez les personnes qui sont plutôt du soir, moi je recommanderais plutôt d'être productif là où ils peuvent l'être, de manière à ce que ce soit cohérent. Après, c'est vrai que la problématique, c'est que quand on est du soir, qu'on veut suivre son rythme, mais que son rythme de vie par le travail, par les habitudes de vie, les enfants, la famille et tout ça, impose d'être du matin, là ça devient compliqué. Donc on peut chercher à modifier un petit peu ça, mais on sera jamais autant performant qu'un autre qui lui est du matin, et donc du coup c'est possiblement aussi créer un retard, parce que si vous pouvez être pathologiquement, enfin même pas pathologiquement, mais comment je pourrais dire ça, chroniquement on va dire, un petit peu épuisé parce que vous ne respectez pas votre propre nature. Donc ne vous forcez pas à vous lever à 5h du matin si vous n'êtes pas fait pour ça, ça c'est mon conseil. Et deuxième chose, n'ayez pas peur de faire du sport en fin de journée, parce que si vous êtes plutôt du soir, de toute façon vous ne vous endormirez pas tôt le soir. Vous allez vous endormir plutôt en fin de nuit, quand je dis en fin de nuit, c'est pas au petit matin, mais on va dire plutôt, ça veut rien dire en fin de nuit, je vais dire plutôt en fin de soirée. Fin de soirée serait plutôt 11h30, minuit, voire 1h du matin. Et si ce sont vos habitudes depuis toujours, et que vous fonctionnez bien comme ça, que vous êtes en forme comme ça, malheureusement, vous privez de sport en fin de journée parce que vous avez lu que c'était ça augmentait un petit peu la difficulté à vous endormir. Faites vos propres tests, parce que je sais que beaucoup de personnes ont aucun problème avec ça. Hein. Ils ont vraiment aucun problème. Donc, c'est toujours pareil, cette tendance à généraliser les choses. Faites attention, ne généralisez jamais les choses. Votre voisin, lui, il peut vraiment avoir des problèmes à s'endormir en faisant du sport, on va dire vers 20h, 21h, et vous, c'est pas votre cas. Ne tirez pas des conclusions à partir des généralités, mais plutôt testez par rapport à vous. Le but, c'est d'avoir un rythme de vie qui est agréable à suivre pour vous. voilà, c'est toujours la même chose. Donc voilà les petites parenthèses que je mettrai à Miracle Morning, bien que ce soit un livre que je recommande, que je juge intéressant, surtout pour une première introduction dans un style de vie un petit peu plus cohérent. Mais il faut pas prendre le côté strict des horaires et ce que l'on impose. Alors je comprends que c'est beaucoup plus motivant, ça fait beaucoup plus guerrier winner de dire il faut se lever très tôt. Néanmoins, faites attention, la physiologie, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire des bêtises même, mais le réel, donc votre physiologie, la biologie et tout ça, n'est pas obligé d'y croire. C'est-à-dire qu'elle va pas vous croire. Même vous pouvez lui mentir en vous disant que vous êtes du matin. Elle vous croira pas si vous ne l'êtes pas, en fait. Mais vous pouvez vous en convaincre, ça ne fonctionnera pas pour autant. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être à l'écoute. Et quand vous débordez d'énergie avec un style de vie, notez ce que vous faites et ça vous donnera des indications, notamment pour programmer vos séances de sport, pour détecter les moments où vous êtes les plus productifs pour le travail, etc. Donc, voilà. Mais encore une fois, je suis fortement conscient que le rythme de vie actuel, qui est imposé par, en grande partie par l'entreprise, hein, de toute façon, c'est ça qui rythme plus ou moins le rythme de vie, eh ben, il est au profit, on va dire, des personnes qui sont plutôt du matin. Bon, on passe à la suite. La suite, c'était l'OMS. L'OMS et le Comité International Olympique s'associent pour améliorer la santé grâce au sport. Donc, je cite, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé et le Comité International Olympique ont signé aujourd'hui un accord pour travailler ensemble pour promouvoir la santé par le sport et l'activité physique. L'activité physique aide à abaisser la tension artérielle et à réduire le risque d'hypertension, de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales, de diabète et de divers types de cancers, y compris le cancer du sein et le cancer du côlon. À l'échelle mondiale, l'OMS estime qu'un adulte sur quatre n'est pas suffisamment actif. Moi, je juge quand même... j'aurais dit un petit peu plus, mais bon, ça fait quand même 1 sur 4, c'est pas mal. Et que par contre, plus de 80% de la population adolescente dans le monde n'est pas suffisamment active physiquement. Le nouveau partenariat réunira les secteurs du sport et de la santé au niveau international, régional et national pour atteindre l'objectif mondial d'augmenter l'activité physique de 15%, comme indiqué dans le plan d'action mondial sur l'activité physique. Alors, petite note par rapport aux adolescents. Donc tous ceux qui sont comme moi de la génération Y, donc la génération Y étant ceux qui sont nés entre 80 et 95 à peu près, on n'a pas subi fortement l'impact des réseaux sociaux. Pour revenir en arrière, il y en a que ça choque, mais ceux qui ont à peu près la trentaine aujourd'hui, qui ont 30 ou un peu plus de 30 aujourd'hui, à l'adolescence, le téléphone portable, c'était Nokia 3310, 3210 pour les plus anciens, puis après Motorola StarTrak, pour donner des repères un petit peu mobiles, on va dire. On a connu les premiers écrans couleurs sur les téléphones portables, on a connu l'arrivée des appareils photos sur les téléphones portables et aussi des vidéos, et c'était avec de mémoire les Samsung, c'était quoi, D900, je sais plus, à clapet, là, vous savez. On a connu un petit peu ça. On a connu aussi l'absence de réseaux sociaux. Donc l'arrivée de Facebook, je me rappelle plus, mais c'était, je crois que c'était un peu avant l'iPhone. Donc l'iPhone étant de 2007, c'était un petit peu avant. Donc on a eu, pourquoi je parle de tout ça, parce qu'on a eu une adolescence où on devait meubler son temps autrement que sur les réseaux sociaux. Donc du coup, moi, je me rappelle, mon adolescence, c'était sortir, bricoler sa mobylette, son scooter ou je sais pas trop quoi, jouer au ballon, faire du vélo, faire du skate, des sports extrêmes, des choses comme ça, un petit peu. Voilà plus ou moins moi je me souviens que c'était on se retrouvait pour aller taper dans le ballon les après-midi. Bon, après il y a eu des dérives de l'adolescence comme tout le monde, je pense, mais il y avait une activité physique qui était au moins régulière par le rythme de vie qu'on avait en étant adolescent, ne serait-ce que de marcher pour aller chez les potes, de s'activer un petit peu Moi, je me souviens avoir dans une rivière foutu un canoë et puis remonter une rivière avec mes potes comme ça un dimanche. C'était le genre d'activité qu'on pouvait avoir, quoi. Et aujourd'hui, je pense que les chiffres sont alarmants et que c'est pas forcément lié. En fait, moi, je pars du principe que les adolescents sont un petit peu l'extrême de notre résistance aux mauvaises habitudes. C'est-à-dire que s'il y a un ensemble de mauvaises habitudes, donc je vais dire malbouffe, confort, stimulation, etc., X ou Y par des mécanismes, alors les drogues, les écrans et tout ça, les adolescents, c'est un petit peu les plus sensibles à toutes ces choses-là. Et je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, que l'OMS commence avec ça, mais pour moi, le gros travail qui devrait être fait, c'est comment rendre le sport addictif. Addictif dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, quand je dis addictif, c'est pas une addiction nocive, mais plutôt se dire comment on pourrait créer un système, une façon de faire, même un discours qui pourrait permettre aux jeunes de voir le sport comme presque une nécessité, en fait, comme quelque chose de « j'en ai besoin ». Parce que moi, je me rappelle que le sport me servait aussi à évacuer, en fait, la tension qu'on a quand on est ado. Alors, moi, je me suis rapidement mis à la musculation, mais il y avait les sports de combat aussi. Les sports de combat, c'est quand même une technique pour évacuer. Faut pas oublier que l'adolescence, on est encore sous l'autorité de ses parents. On va à l'école, donc on subit l'autorité des professeurs. Il y a les conflits aussi qu'on peut avoir avec les camarades et tout ça quand on est encore au collège ou lycée, pour ceux qui y sont allés. Et le sport, que ça soit la muscu, le foot, la boxe, le kung-fu, enfin, moi, j'ai pas fait de foot, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait un petit peu de boxe thaï, vraiment un peu, mais ça a plutôt été le kung-fu. Et la musculation, pour moi, c'était quand même des sports qui me permettaient une forme d'évacuation nerveuse. J'étais pas ultra stressé, même pas du tout, mais je ressentais que le sport m'amenait finalement me décharger cette électricité que je pouvais avoir quand j'étais ado. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le confort matériel et les écrans, etc., ne permettent pas de décharger cette électricité, mais au contraire, plutôt de la recharger. Et est-ce que c'est pas ça qui crée les trolls et les tout ça chez les plus faibles, en fait, hein, entre guillemets, qui ont du mal à gérer à canaliser, en fait, cette frustration, cette électricité, cette nervosité. Et en fait, ils pensent y arriver en se déchargeant, sur la toile, hein, sur les réseaux et tout. Mais ils se rendent bien compte que ça marche pas puisqu'ils continuent à le faire. Donc, il y a pas de purge au niveau physique. Et ça, à mon sens, ça va créer, pas mal de négatifs, à terme, on va dire. Donc, pour moi, l'objectif serait un petit peu de travailler là-dessus, de rendre le sport un petit peu plus intéressant et notamment de se servir certainement des figures d'autorité chez les adolescents aujourd'hui pour le faire exister. Donc, voilà. Alors, ensuite, on passe à... C'était quoi l'article là? Oui, l'Association canadienne du diabète reconnaît l'intérêt des régimes pauvres en glucides. Un article de la nutrition qui dit que si en France, les recommandations alimentaires pour les diabétiques n'ont pas changé, au Canada, les choses évoluent et une alimentation pauvre en glucides peut être conseillée pour les deux types de diabète. Selon Diabète Canada, un excès de calories et la surconsommation de glucides raffinés sont les principaux facteurs de l'épidémie d'obésité et de diabète de type 2. Tandis que l'obésité apparaît comme un défi pour les personnes qui ont le diabète de type 1. Du reste, en France, dans ses conseils aux diabétiques, l'assurance maladie indique que les glucides doivent apporter environ la moitié des besoins énergétiques de la journée, calories journalières. De son côté, la Fédération française des diabétiques assure que les glucides sont indispensables. Donc là, c'est le discours français, hein. Pour la Haute Autorité de Santé française, donc l'HAS, même son de cloche, les aliments glucidiques ont une place indispensable pour leurs effets sur le rassasiement et la prise alimentaire. Il faut conseiller le pain et les féculents. Pour la à la Haute Autorité de Santé française, il faut contrôler l'apport quantitatif en lipides dans un premier temps, en personnalisant les conseils à partir des recommandations générales, comme la diminution des matières grasses des viandes, dites grasses, de la charcuterie, des fromages gras, des fruits oléagineux, ainsi que de tous les produits de panetterie et de biscuiterie sucrée et salée. Ces positions ont été dénoncées par Jérémy Anso dans Santé, mensonge et toujours propagande. Ces recommandations qui servent de feuille de route à de nombreux médecins et diététiciens pour conseiller les diabétiques sur le plan alimentaire paraissent motivées par le souci de ne pas perturber les habitudes alimentaires des patients qui doivent déjà se soumettre à des analyses régulières et avaler chaque jour des médicaments, analyse-t-il. Elles ont globalement échoué à rendre les diabétiques en meilleure santé, sans même parler d'inverser leur maladie. Seuls 10% des diabétiques ne prennent pas de médicaments. Pour les personnes vivant avec un diabète de type 2, un régime pauvre en glucides peut être efficace pour perdre du poids, améliorer le contrôle de la glycémie et diminuer le recours aux médicaments hypoglycémiants. D'autres régimes alimentaires peuvent également être efficaces pour perdre du poids et améliorer le contrôle de la glycémie, mais ils ne sont pas parvenus à réduire le recours aux médicaments hypoglycémiants. En outre, les régimes à très faible teneur en glucides peuvent être supérieurs au régime de référence, donc riche en glucides, pour améliorer le contrôle de la glycémie, le poids corporel et réduire le besoin de médicaments à court terme, jusqu'à 12 mois. Mais les preuves concernant les avantages à plus long terme sont limitées. Les données scientifiques existantes sont limitées par des problèmes méthodologiques. Donc, on voit bien que au Canada, ils commencent à prendre conscience qu'il peut y avoir. En fait, ils commencent à explorer une piste qui est pas prise au sérieux, du moins en France. Et moi, la problématique que je vois, c'est que, ben, quelque part, on peut pas en vouloir aux médecins. Les médecins, ce sont des médecins, traitements, etc. Ils sont là pour poser un diagnostic, pour proposer un traitement, etc. Là où je vois un petit peu la dangerosité du truc, c'est que, comme il dit, les médecins vont suivre une feuille de route. Les diététiciens, etc., ils vont suivre une feuille de route établie par des personnes qui ne prennent pas au sérieux ce genre de choses. Donc, le raccourci que font beaucoup de personnes, c'est d'incriminer les médecins, que ce soit les généralistes ou autres, mais c'est pas leur travail. Eux, ils suivent une feuille de route. C'est-à-dire que ça n'est pas leur travail de connaître la nutrition. Ils ne l'apprennent pas, ils n'ont pas le temps, et en plus de ça, ils ont beaucoup de travail ailleurs. Par contre, si on leur donnait une feuille de route qui était beaucoup plus cohérente, même sans savoir, au moins, ça leur permettrait de donner les bons conseils, au moins les bonnes recommandations. Et je pense que de dire que leur style de vie est déjà modifié par la prise d'analyse et tout ça pour le diabète, donc pour les patients atteints, de trop les perturber en leur disant ben continuez à manger mal parce que voilà vous avez déjà perturbé votre style de vie et tout ça. Moi je pense qu'il faudrait leur donner le choix aux patients, c'est-à-dire que leur proposer que vous allez devoir, votre vie ne va plus ressembler. Je sais ce que c'est, hein, le diabète. Hein. Moi, j'ai vécu avec, j'ai pas vécu avec mon grand-père, mais j'ai vécu la situation en voyant mon grand-père se piquer au quotidien, faire des hypoglycémies la nuit. De vivre avec le diabète de type 1. Et je peux vous dire que c'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, c'était plutôt un bon soldat de la médecine, c'est-à-dire qu'il a toujours écouté ce qu'on lui disait. Il se levait le matin, il mesurait avec un espèce de comment ça s'appelle là, vous savez, un pied à coulisses pour mesurer sa dose de baguette de pain blanc, le pain blanc. Hein, c'était ça dans ses recommandations. Il avait avec un pied à coulisses, il prenait la taille de la baguette, là, je sais plus la dose qu'il devait prendre, mais voilà, son morceau de pain était quantifié, on va dire. Il faisait une marche en milieu de matinée, il avait un casse-croûte en milieu de matinée, il avait son repas qui était toujours à heure fixe le midi, toujours à heure fixe le matin, une promenade le matin en milieu de matinée, une promenade l'après-midi, repas à heure fixe le soir, voilà. Et pourtant, il faisait des hypoglycémies régulièrement, et il fallait, je me rappelle, hein, il se levait la nuit complètement en titubant, en hurlant même. Moi, j'étais petit, je me rappelle, c'était un peu terrorisant. Et puis ma grand-mère se levait quand ça la réveillait et puis elle lui donnait, je me rappelle c'était du jus de fruits à l'époque, elle lui donnait du jus de fruits pour lui remettre du sucre hein, finalement parce qu'il était en hypoglycémie. Il a toujours suivi les recommandations qu'on lui disait, il est parti un petit peu trop tôt d'ailleurs, Bon, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme mon grand-père, si on lui avait dit « voilà ce qu'il faut manger », il l'aurait suivi. Et moi, mon sentiment là-dedans, ce qui, en fait, ce qui me fait un petit pincement, c'est qu'on laisse pas le choix aux malades. Il y a peut-être des malades qui auront pas envie de suivre ces recommandations de santé parce que effectivement, le rythme de vie, je peux le comprendre, je l'ai vu, il est vraiment perturbé. Mais il y a des personnes qui voudront tout faire pour essayer d'aller mieux. Et donc, du coup, ces personnes-là, on devrait pas juger à leur place le fait que leur style de vie est déjà dur, donc on va essayer un petit peu de, on va pas trop les brusquer. Je pense qu'il faut leur donner toutes les cartes. Il y a plusieurs solutions. Voilà. Là, ça va vraiment changer votre style de vie parce que, bon, pour le diabète de type 2, on sait que c'est fortement le style de vie qui l'a créé. Le diabète de type 1, c'est autre chose, mais le type 2, c'est les habitudes de vie, le surpoids, etc. Enfin bon, bref, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas mon job, mais... Et à ces personnes-là, déjà leur dire, écoutez, il y a un style de vie vraiment qui a montré plus de résultats que d'autres, c'est celui-là. Il va par contre engendrer pas mal de modifications dans votre style de vie. Mais sinon, voilà, il y a les médicaments qui vont pouvoir vous aider à tenir le cap. Ça sera pas l'idéal, ça sera pas, voilà, ça sera mieux les médicaments et les bonnes habitudes de vie que les médicaments avec les mauvaises habitudes de vie. Mais bon, voilà, au moins les gens auraient le choix. Et en fait, prendre la décision pour les gens, moi je trouve ça un petit peu, je sais pas, il y a encore le côté naïf de beaucoup de personnes qui, vous savez, en France, l'autorité, faites parler un politique à la télé et il sera beaucoup critiqué. C'est-à-dire que s'il dit il faut faire ci, il faut faire ça, on va le critiquer, il va y avoir des manifs, etc. Faites parler un médecin à la télé et vous allez terroriser les gens parce que le médecin a un tel poids, s'il dit il faut faire ça parce que sinon c'est risqué, il va être écouté. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'en termes d'autorité, la blouse blanche, le médecin, a un poids énorme aux yeux des Français. En tout cas, de la génération, peut-être pas de la mienne, mais au moins celle qui est un petit peu plus vieille que la mienne. Donc, ceux qui ont aujourd'hui 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans. Ces générations au-dessus de moi, comme ça, ces gens-là sont encore vraiment impactés par le discours du médecin et l'autorité est assez forte à leurs yeux par rapport à ce discours-là. Donc, du coup, vous savez, comme il disait là dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je crois que c'était ça que disait c'est son oncle, je crois, qui dit ça. Ben ouais, c'est un petit peu ça, hein. Le médecin a un gros pouvoir aux yeux des Français et donc, du coup, fortement enfin, il a aussi une grosse responsabilité. Mais c'est pas que de sa responsabilité, c'est aussi, justement, ses hautes autorités de santé. En fait, tout ce qui va dicter les sujets un peu annexes de la médecine traditionnelle classique et la nutrition et le style de vie font partie de ces sujets annexes que le médecin ne maîtrise pas, en fait. Et c'est normal, c'est pas son travail. Lui, il est censé maîtriser la médecine, pas ça. Et donc, du coup, il faut vraiment lui apporter, je pense, quelque chose de qualité. Et là, encore une fois, il y a un travail à faire et peut-être que les Canadiens ont certainement peut-être un petit peu d'avance sur nous. Et ça serait bien de s'en inspirer. Enfin, en tout cas, voilà, c'était mon point de vue sur cette déclaration. Je vais passer à l'association... alors, ça, c'était le sujet sur ça. Donc, voilà, le confinement offre un moyen d'exercer notre capacité d'inhibition. Donc, en fait, ça, c'est un retour par rapport au confinement qu'il y a eu, là. Depuis le mois de mars, alors c'était un article de Cerveau et Psycho, depuis le mois de mars dernier, nous avons connu, fait inouï, un méga apprentissage inédit et synchronisé du contrôle inhibiteur préfrontal dans les dizaines de millions de cerveaux de toute la population française, généralisé dans le pays et même dans le monde. Ce sera difficile à mesurer, mais on peut faire l'hypothèse neuroscientifique et formuler l'espérance que tant pour les apprentissages cognitifs à l'école ou au travail que pour notre fonctionnement social, ce confinement, via l'inhibition positive et créatrice qu'il a imposée, sera très bon pour l'avenir. La moitié de notre cerveau humain est inhibitrice, mais nous la sollicitons peu. L'éduquons peu à l'école au profit de la seule suractivation neuronale toujours plus rapide. Cette crise sanitaire et socio-économico-politique est une opportunité unique de contrôle de soi et de, entre guillemets, contrôle de nous. Dans le monde, à comprendre et à saisir. Pour les questions climatiques, par exemple, inhiber nos envies de prendre l'avion à tout va, de se précipiter vers les magasins dès le coup d'envoi des soldes. Donc en fait, en gros, comment moi je le comprends, c'est que tous les bons gestes, toutes les choses en fait qu'on s'est refusées parce que c'était on avait vu ça comme les bons gestes pour se protéger, les gestes barrières aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre la bagnole et d'aller faire des courses et de m'exposer au virus alors que j'ai encore à manger, ou est-ce que c'est pas trop risqué d'aller courir à cette heure-ci plutôt qu'à une autre, etc. Enfin, tous ces gestes d'inhibition qu'on a eus, eh ben, ça a stimulé des zones dans notre cerveau qu'on avait oublié de stimuler depuis des années. Et donc, du coup, on peut peut-être profiter de cet effet du Covid-19, donc du confinement, pour se les appliquer au quotidien, c'est-à-dire de toujours avoir une petite boucle de questionnement à chaque prise de décision, à savoir est-ce que c'est bon pour nous, pour les autres, pour la planète, pour tout un tas de choses. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est un des rares articles que je lis qui cherche à découvrir du positif, et je pense que le but de l'article était ça, hein, de chercher à faire émerger le positif d'une situation plutôt vécue comme négative par pas mal de personnes. Et c'est une forme de progression, et le contrôle de soi et le contrôle de nous, je pense que c'est une bonne chose, et de pas être un petit peu victime de la stimulation, comme il dit, des soldes, de se déplacer un peu à tout va et de plutôt avoir une petite réflexion, par exemple pour le climat et tout ça, même si c'est pas du tout le sujet pour le fitness et tout ça. Souvent les gens essayent quand même de faire un petit peu attention, même sans s'en rendre compte. Mais il y a quand même cette dimension où on développe un petit peu ce contrôle de soi, et je pense qu'il faut, à mon sens, chercher à l'entretenir par des petites actions du quotidien. Parce que je pense que le naturel qui serait plutôt les habitudes de vie d'avant le confinement, pourrait revenir au galop. Voilà. La suite, c'était pour prendre du poids, un dîner bien glucidique, bien tard. Alors encore un site de la nutrition qui dit « L'équipe a trouvé que lorsque les participants mangeaient plus tard dans la soirée, leur poids augmentait. Les repas pris plus tard élèvent aussi le niveau d'insuline, de glucose à jeun, de cholestérol et des triglycérides. » Les chercheurs ont aussi regardé le quotient respiratoire, à savoir le rapport entre le gaz carbonique produit par le corps et la consommation d'oxygène. Cette mesure est une indication des nutriments métabolisés. Le quotient respiratoire augmentait quand les repas étaient pris plus tard, ce qui montre que les participants métabolisaient moins les graisses que les sucres. Une étude parue en avril 2020 montre qu'un repas à index glycémique élevé conduit à une glycémie plus haute le soir que le matin. Dans un essai clinique paru dans Scientific Reports, 29 hommes non obèses ont mangé soit des repas riches en glucides avant 13h30 et des repas riches en graisse entre 16h30 et 22h, soit l'inverse. Donc l'inverse, c'était l'inverse, hein, des repas riches en graisse plutôt le matin, enfin fin de matinée, début d'après-midi, donc avant 13h30, et des repas riches en glucides entre 16h30 et 22h. L'étude a montré qu'une alimentation qui privilégie les glucides le soir a des effets défavorables sur le contrôle de la glycémie. Il est préférable de dîner tôt, avant 20h ou 21h, d'un repas frugal, en évitant les aliments sucrés et en respectant un jeûne de 10 à 12 heures minimum avant de remanger. Donc en fait, durant la nuit, quoi. Bon, ben, c'est encore des pistes. Il y aura toujours des contre-infos par rapport à ça. Il y aura toujours des infos peut-être pertinentes dans l'autre sens. Moi, en tout cas, pour le sportif, en tout cas, je pars toujours d'un contexte qui est le fitness. Fitness veut dire être en forme sans prendre du gras, etc. Et à mon sens, les recommandations de baisser la densité du repas du soir en glucides me semblent, et par mon expérience personnelle, pour moi, ça me semble plus intéressant. Il y a des gens chez qui ça n'aura peut-être pas d'impact, et des gens chez qui ça aura un gros impact comme moi. Mais en tout cas, il y a quand même des pistes, comme ils disent là. Moi, je l'expliquais surtout par rapport à à cette idée de faire monter le taux de sucre dans le sang, alors qu'on allait être, au moment de la journée, on allait être le plus inactif, en fait, le moins actif. Et je trouvais pas ça cohérent. En fait, moi, pour moi, consommer de l'énergie, sans créer une dépense derrière, ça me semble incohérent. Après, il y en a qui vont dire oui, mais pour la récupération, etc. Mais la récupération de quoi? Les glucides servent à récupérer au niveau musculaire, certes, on va refaire un petit peu de glycogène, au niveau hépatique aussi, au niveau cérébral, certainement qu'on va utiliser un petit peu de glucose aussi, mais est-ce qu'on a besoin préférentiellement des glucides plutôt que de protéines pour reconstruire au niveau des tissus, ou alors même de graisse pour la synthèse au niveau du cerveau, de certaines hormones, etc. Moi, je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir, et il ne faut pas diaboliser, encore une fois, un nutriment, mais avoir un ratio cohérent par rapport au moment de la journée. C'est tout simplement comme ça que je vois les choses. Je suis pas pro zéro glucides, je suis pas pro zéro graisse, ni 100% protéines ou autre. Moi, je pense que toutes ces approches-là sont incohérentes, en fait. Je suis plutôt sur la répartition en fonction de la journée, mais aussi de la qualité de l'alimentation. Ça, je pense que c'est primordial. Bon, voilà, au moins je vous ai partagé cet article. La suite, un petit peu plus léger, avant de passer à l'article sur les vélos, vous savez que le prochain Batman va être tourné, je crois qu'il va sortir dans 2021 ou 2022, et c'est le gars de Twilight, Robert Pattinson, qui va prendre le rôle. Donc un petit choc un petit peu pour les personnes comme moi, parce que je le voyais pas, je trouvais pas qu'il avait le profil pour, mais j'attends d'être surpris pour ça. Point fort, c'est un acteur britannique, donc j'aime bien en général les acteurs britanniques. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'article là disait que Robert Pattinson refuse de faire du sport pour entrer dans l'armure de Batman. Il disait que alors que le tournage de ce nouveau Batman venait de débuter à Londres, il a dû être stoppé par le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus. Une pause que Robert Pattinson, confiné à Londres, ne semble pas regretter, comme il l'a expliqué au magazine GQ lors d'une interview. Même si son coach personnel lui a laissé des exercices et du matériel pour s'entraîner et surtout développer son physique afin de coller à l'imposante carrure de Batman, Robert Pattinson préfère visiblement passer du bon temps avec sa compagne, le mannequin Suki Waterhouse, se balader dans les rues et manger un peu ce qui lui passe entre les mains. Le physique, très peu pour lui, il a clamé dans la même interview qu'il avait un souci avec cette obligation à se muscler et à avoir une apparence précise pour un rôle. Faire trop de musculation, ça me pose un problème. Dans les années 70, personne ne faisait ça. Même James Dean n'était pas hyper musclé et ça a été pour lui. En vous entraînant trop, vous faites partie du problème. Reste à savoir si la production du film sera du même avis. Bon, déjà, dans les années 70, tu te trompes, Robert, parce que pas mal d'acteurs étaient musclés. Regarde Belmondo, regarde Steve McQueen. Tu peux même remonter avant si tu prends... Sean Connery, qui avait même été Monsieur Univers. Bon, il y avait des acteurs plutôt musclés dans les années 70, et James Dean, c'est plus fin des années 50, 60 que 70. Bon, après, on dit un petit peu ce qu'on veut. Moi, je suis assez d'accord avec lui qu'on n'est pas obligé de se muscler pour un rôle. Après, on n'était pas obligé de te choisir non plus pour le rôle, je pense, et on aurait pu choisir quelqu'un qui avait déjà... je peux comprendre que ça énerve un acteur quand on le choisit pour un rôle, mais qu'on veut modeler la personne. C'est-à-dire qu'on le choisit... Pourquoi on le choisit finalement? Parce que si là, c'est un héros, bon, Batman, machin, il a quand même une carrure, etc. Ceux qui sont fans des comics et tout savent que Batman, il est pas frêle. Hein. Et ça peut être un peu, comment dire, blessant qu'on te dise ouais tu peux coller au rôle, mais par contre faut que tu prennes un peu de viande parce que là ça va pas le faire, et puis ben mal le prendre quoi. Christian Bale à l'époque avait pris pas mal de masse musculaire, qui sait qu'il y a eu après, il y a eu Ben Affleck qui lui, bon, il y avait un petit peu de Photoshop et puis de maquillage et de jeu de lumière pour le rendre musclé, parce qu'il était certes volumineux, mais c'était pas l'athlète, enfin il était pas athlétique comme Christian Bale. Moi, je pense que vous savez en plus que j'aime bien. J'ai les BD, les comics. J'ai une petite collection à la maison. Je trouve que c'était pour moi le héros ou anti-héros qui me plaisait le plus dans les comics. Bon, ben voilà. Est-ce que Robert Pattinson est victime un petit peu de la génération Y? Je sais pas. Génération. Je crois que lui, je sais pas quel âge il a. Quel âge il a? On va regarder en direct là. Je crois qu'il a notre âge. Enfin, notre âge, quand je dis notre âge, c'est le mien. Donc, il doit avoir la trentaine. Ouais, il a 34 ans. Donc, visiblement, il est anti-sport et il a un petit peu du mal à faire la diète. Après, quelque part, on ne peut pas lui en vouloir. C'est ses choix. On aurait peut-être dû choisir quelqu'un d'autre pour avoir ce rôle. Après, le film sera certainement très bien et ça se trouve c'est peut-être un coup de poker aussi. Il dit peut-être ça et puis il va sortir hyper athlétique. Je sais pas, mais en tout cas les phrases, ça me semble un peu incohérent venant d'un acteur qui se trompe par rapport à James Dean et sa période où il a été acteur, enfin en tout cas connu, parce que James Dean dans les années 70 il était même plus là, hein, il était décédé de mémoire. Je sais plus, je crois que c'est fin des années 60, mais si je tape James Dean, on va nous dire. James Dean, il est mort en 55. Donc voilà. Et après, il y a eu plein de. Et d'ailleurs, j'ai un article sur Belmondo qui m'a bien plu. Qui est. Est-ce que je l'ai noté? Je crois que je l'avais noté, mais ça, il s'est pas mis de côté. Zut. C'est dommage parce que j'avais un truc sur Belmondo qui était assez sympa. En fait, il disait que si, il est là. Jean-Paul Belmondo, musculation, risotto et blague salée. Son confinement raconté de l'intérieur. Alors, Jean-Paul Belmondo n'est pas sorti de son appartement parisien dans lequel il est confiné avec son ami Jeff Domenech. Le réalisateur dévoile alors aux Parisiens le déroulé d'une journée ordinaire en compagnie de Bebel. On prend le petit déjeuner vers 10h, puis Jean-Paul lit la presse, appelle son frère aîné Alain, sa sœur Muriel, ses enfants et ses copains. Ensuite, il prend un bain de soleil sur le balcon, puis il fait une petite séance de muscu, explique Jeff, qui avait été impressionné par les séances de sport effectuées par son ami qui soulève des haltères pendant 15 à 20 minutes afin de rester en forme. Pour rappel, Jean-Paul Belmondo, je crois qu'il a fêté ses... Attendez, je sais plus, c'est 82 ou 88. Quel âge a Jean-Paul Belmondo? Je crois qu'il vient de fêter son... Il y a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps de mémoire. Ouais, c'était le 9 avril, il a fêté ses 87 ans. Donc voilà, bon, 87 ans, mais il continue à bouger. Donc, et lui, la période des films d'action, c'était justement les années 70. Il a commencé plus tôt, mais c'est en 70 qu'il a fait le plus de... Enfin, qu'il a démarré vraiment les rôles d'action, on va dire, comme on les entend. Bon, on continue un petit peu. Bon, c'était un petit peu pour faire le côté cinéma, le sport au cinéma. Est-ce que le nouveau Batman va faire le contre-coup de tous ces acteurs musclés qui véhiculent une image athlétique aux yeux des gens? Et moi, je trouve... En fait, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça. Donc, si les plus jeunes, ça peut les mettre au sport, pourquoi pas? Après, si ça crée des complexes chez les gens, il faut pas se créer des complexes par rapport à ça. Faut faire ce qu'on aime. Si on fait du sport... Ça me semble plus sain de faire du sport pour ressembler un peu à ces héros, si ça peut nous dynamiser quand on est gosse, que je sais pas, que se dire que si on fait pas de sport, on pourra jamais séduire et tout ça. Là, par contre, ça devient délicat parce que de s'identifier par rapport au sport, par rapport à la séduction, à la vie de couple et tout, c'est assez compliqué. Mieux vaut travailler sur autre chose, enfin, sur l'estime de soi plus que ça, mais. Si c'est pour c'est un facteur de motivation parce qu'on a envie de ressembler à son héros de quand on était gosse ou quand on est ado, le héros du moment, bah feu quoi, pas de problème. Vous savez, mieux vaut ça que plutôt à l'époque où on mettait où ça encourageait les gens à fumer et à picoler, hein. C'est encore une fois, mais il y aura toujours de toute façon des contradictions dans les trucs. Bon bref, on va parler un peu des vélos électriques. Pourquoi? Parce qu'en fait, après le confinement, il y a eu beaucoup d'achats de vélos électriques. Alors la première chose, je suis pas un pro du vélo électrique, hein. Je vous ferai après mon petit détail par rapport à moi, mais première chose déjà, c'est qu'il y a une prime qui peut aller jusqu'à 200 euros d'aide pour acheter des vélos. Donc renseignez-vous, vous tapez prime VAE, je crois, vélo assistance électrique, sur Google, vous allez trouver les conditions. Donc ça peut aller jusqu'à 200 euros. Il y a des conditions à respecter, mais voilà, il y a pas mal de personnes sorties du confinement qui veulent utiliser le vélo électrique. Bonne idée. Je trouve ça plus intéressant qu'une trottinette. Enfin, moi, je suis sportif, donc forcément que je vais trouver plus d'intérêt à l'utilisation d'un vélo électrique qu'une trottinette électrique. Parce que la trottinette électrique, certes, elle a le côté pratique, on l'applie, voilà, tout ça, c'est assez compact, mais bon, zéro effort. Alors que le vélo électrique, bon, il y a quand même, on peut mettre la résistance comme on veut. Donc du coup, si on veut vraiment faire du sport, on peut. Si on veut pas en faire, on peut aussi. Mais il y a quand même cette dimension, on a le choix. Je dis ça parce que j'ai écouté un autre sujet ce matin et j'ai vu que la marque Angel, qui est en partenariat avec Seb, donc l'électroménager, propose un vélo électrique qui a un design assez sympa. Alors, on n'est pas dans le vélo sportif, là. Hein. On est plus dans le vélo moyen de transport. Un vélo qui aura 70 km d'autonomie. Alors, attendez. Ouais, 70 km d'autonomie, 4 assistances électriques, 3 modes de conduite. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a encore ? Je crois qu'il pèsera dans les 13 ou 14 kilos, donc assez léger. Quoi, 2 kilos? Non, c'est pas possible. Il peut pas faire 2 kilos, le vélo. Si le vélo, il fait 2 kilos, c'est hallucinant. Bref, c'est vraiment léger. Pour info, moi, mon vélo... Non, je pense pas qu'il fasse 2 kilos. C'est pas possible. Enfin, s'il fait 2 kilos, j'hallucine. Enfin, où est-ce qu'ils mettent une batterie? C'est la batterie qui doit faire 2 kilos, je pense. Ah oui, ça doit être la batterie. Bref. En tout cas, ça montre qu'il y a un engouement pour ça. Bon, le vélo est cher, hein. Je crois qu'il est dans les 2000 balles. Alors, si je mets précommandé, je crois qu'on peut le précommander à 269 euros. Et le truc final, il est à combien? On nous le dit pas, mais je crois qu'il y avait... J'avais lu que c'était... Oui, 2421. Voilà, 2421 euros, prix final. C'est pas le vélo que j'achèterai, je vous le dis tout de suite, hein, parce que on peut pas aller dans les chemins réellement et tout avec. Ça reste un vélo pour de moyens de transport, mais pas le vélo pour aller faire la sortie VTT, la rando et tout. Bon, on a ça d'un côté, et moi je voulais faire le parallèle avec autre chose, de faire son propre vélo électrique. Je m'explique. Si vous êtes comme moi, vous aviez déjà un bon VTT. Un bon VTT, je m'entends, j'avais pas un VTT de compétition ni rien. Moi, j'avais un Rock Rider, un vélo à je sais plus, mais à peu près entre 3 et 500 euros chez Decat, tout suspendu, voilà. C'est un vélo qui est correct. C'est pas un vélo haut de gamme, c'est pas un vélo bas de gamme, c'est un vélo qui est correct pour l'utilisation que j'en ai. Le vélo étant pas mon sport principal, moi c'est le fitness, ça me suffisait largement pour quand je décidais de faire du vélo. Je ne voulais pas acheter... J'étais intéressé par le côté vélo électrique pour plusieurs points. La première chose, c'est que je pouvais partir faire des longueurs beaucoup plus grandes dans le même laps de temps. Deuxième chose, c'est que je pouvais avoir le choix de faire du sport ou de m'en servir comme moyen de transport. Le problème, c'est que j'avais pas envie d'acheter un vélo électrique parce que ça me faisait double emploi, d'avoir un vélo électrique et un VTT. Donc du coup, j'ai décidé de chercher est-ce que je pouvais trouver un moyen... de convertir mon vélo en vélo électrique. J'ai trouvé un site qui s'appelle Cycloboost qui proposait ce genre de service. J'avais regardé des vidéos sur YouTube et tout. Et j'ai vu que c'était possible. Je trouvais le concept intéressant. Après, moi, faut savoir une chose, c'est que je suis bricolo, hein. Je suis pas bricoleur. Enfin, si, je suis bricoleur, mais je suis pas bon en bricolage. C'est-à-dire que je suis pas, je suis manuel, pas de problème, mais je suis pas un expert en bricolage. Mais bon, je me débrouille, j'aime ça. Et donc j'ai cherché un petit peu comment convertir mon propre vélo en vélo électrique. Alors faut savoir une chose, c'est qu'il y a tous les prix. Moi, le moteur que j'avais choisi, c'est un 750 watts, ou je crois, un truc comme ça. J'ai mis une batterie dessus de 48 volts, etc. Donc j'avais noté un peu les références, mais le moteur que j'ai installé, il fait 4,2 kg. Et la batterie, elle fait 3 kg. Et mon vélo fait 14 kg. Donc, à peu près, hein, on va dire, grosso merdo, un peu plus de 20 kg, de tout compris. Plus mon poids de corps, le vélo est largement, largement maniable. Faut savoir une chose, c'est qu'à la base, mon vélo fait 14 kg. Je lui ai rajouté 3 kg de moteur. 4 kg de moteur et 3 kg de batterie. Donc, Franchement, je le sens pas. C'est pareil que quand vous avez un sac avec un petit peu de matos dedans, je sens pas trop la différence. Le vélo est aussi maniable. Par contre, quand j'enlève complètement l'assistance, le vélo devient un tout petit peu plus lourd. Mais si on met l'assistance à 1, en fait, on récupère plus ou moins le pédalage natif, on va dire. L'avantage que j'ai trouvé à ça, c'est que je peux mettre carrément sur zéro et donc faire vraiment du vélo, de m'en servir comme moyen de transport pour faire des longs trajets, parce que franchement, l'autonomie est super longue. Et après, le budget, ça dépend un petit peu de... Le budget, c'est surtout lié à la batterie. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu prendre une batterie avec quand même une grande capacité, une grande autonomie. Donc du coup, la batterie m'a coûté cher. Mais on peut prendre des batteries plus faibles. Donc je crois qu'il y a du 32... Non, c'est 36 volts, je crois. Et donc du coup, la batterie coûte moins cher. Pour info, les batteries, c'est 24, 36 ou 48 volts. Si on prend une batterie trapèze, donc qu'on met sur le cadre du vélo, là, pour alimenter le moteur, les batteries de 24, je vais vous dire le prix directement, c'est 369 euros. C'est pas donné, hein. Mais rappelez-vous, le prix d'un vélo électrique, c'est ça démarre dans un truc... un VTT électrique, parce que moi, c'est un VTT électrique, ça démarre assez cher. Donc là, c'est 369 euros pour le premier prix de batterie, qui, elle offre une autonomie entre 45 et 65 km selon votre utilisation. Ensuite, moi, celle que j'ai prise, je crois qu'elle monte quasiment à 600 euros parce que j'ai pris avec la plus grosse autonomie. Et le moteur, que je vous dise le prix également. Alors moi, c'est un moteur pédalier parce que vous avez des moteurs à la roue avant ou à la roue arrière, mais vous avez également les moteurs pédaliers. Moi, j'ai choisi un moteur pédalier pour que ce soit comme les vélos électriques natifs, c'est-à-dire que quand vous pédalez, vous pouvez avoir une assistance ou la déconnecter. Vous pouvez avoir aussi, quand vous freinez, une coupure de l'assistance, etc. Avec le compteur, le restant de batterie, enfin le kit est vendu avec tout. Et le premier prix du moteur, c'est 569 euros. Vous ajoutez à ce prix-là la batterie. Et moi, le moteur que j'ai choisi, de mémoire, il était à 600 euros, 629. C'est un moteur de 750 watts. Ouais, voilà, c'est ça, 4,2 kg, etc., qui a du couple jusqu'à 120 newton-mètres, etc. Bon, de 750 watts à 1200 watts. Donc moi, en fait, j'ai 1200 watts en 48 volts. Donc, honnêtement, mon vélo électrique, je vous le dis, il a vraiment, vraiment, vraiment la gouache. Quand je mets l'assistance à 5 et que je me mets en mode montagne un petit peu, dans des côtes avec le VTT, je vous garantis que ça avoine sérieux et que je monte à... Enfin, en fait, ce qui me fait arrêter une côte, c'est que le vélo se retourne. C'est-à-dire que la côte est trop pentue et que je me retourne. Mais sinon, je monte tout. Tout. C'est vraiment impressionnant. Et moi, j'ai redécouvert une liberté. Je pense que pour faire le parallèle avec le confinement, ce que j'ai trouvé hyper, ce que je pense très intéressant avec le vélo électrique, c'est que sorti du confinement, le vélo donne de la liberté et le vélo électrique donne une liberté encore plus grande. C'est-à-dire que le vélo donne une liberté mesurée, raisonnable, une liberté raisonnable, c'est-à-dire qu'avec le vélo normal, quand on part, on est limité par ses capacités sportives, et donc du coup, on va faire un itinéraire qui est limité. Le vélo électrique, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on a cette liberté du vélo, en plein air, etc., dans la nature, amplifiée par ce côté liberté plus. C'est-à-dire qu'on a le vélo plus la liberté motorisée, entre guillemets. On sait que quand ça va devenir trop compliqué pour nous de pédaler ou on va vraiment être épuisé, l'assistance électrique va pouvoir venir nous aider. Donc en fait, à dose d'effort égale, en fait, on va faire beaucoup plus de kilomètres en vélo électrique. Donc je dis pas que il y a des gens qui sont pro vélo et je les comprends. Le vélo est une discipline sportive. Il y a des gens qui sont pro vélo électrique, qui sont en mode discipline sportive, mais en électrique. Mais je connais beaucoup de sportifs qui adoraient le vélo et qui étaient des grands sportifs en vélo, qui adore le vélo électrique, parce qu'en fait, ça ne remplace pas, c'est une autre dimension, c'est une autre façon de faire du vélo. Et donc, voilà, donc là, je parle en tant que pur amateur de vélo, moi je trouve que c'est une liberté plus, ce petit côté moteur électrique, ça a un coût, mais ça peut être un moyen de transport pour aller bosser. Moi je sais que si aujourd'hui j'étais salarié encore, le vélo électrique si j'étais pas trop loin évidemment et que la route se prêtait, était bien desservie en piste cyclable ou en forêt pour aller jusqu'à mon travail, je trouve que ça serait un moyen de transport super intéressant. Après, c'est pas 100% écolo hein, parce que l'énergie qu'on met dans les batteries, elle tombe pas du ciel hein. Elle est produite par des centrales nucléaires ou je sais quoi, mais en tout cas c'est de l'énergie, donc on n'est pas 100% vert quand on roule en électrique, que ça soit bagnole, vélo, trottinette et tout ça. Faut arrêter de croire. On est vert, comme dirait je sais plus qui. On est vert et non polluant autour du vélo ou autour de la trottinette, mais pas dans l'absolu. Voilà. Donc mon petit retour sur les vélos électriques. Je pense que c'est une bonne idée de s'y mettre. Hein. Ça peut être un moyen. En tout cas, c'est un moyen de faire un petit peu d'activité physique. Moi, si j'ai, encore une fois, le ça ou la trottinette, j'ai tout de suite fait mon choix. C'est le vélo. C'est clair et net. Donc voilà, en fait, moi, je voulais vous donner un petit peu mon retour et de vous dire que vous pouvez, si vous avez un vélo chez vous, un VTT que vous aimez, que vous souhaitez convertir, ça se fait assez bien. En fait, faut démonter votre pédalier, vous mettez le pédalier avec le moteur qu'on vous vend sur le trapèze au niveau de votre vélo. Eh ben, vous allez percer, mettre la batterie, etc. Alors, il y en a qui disent que ça fragilise, etc. Moi, personnellement, mon vélo, il peut encaisser jusqu'à 120 kilos, donc je suis assez loin de ce poids de corps. Donc, au niveau du pédalier, etc. Ça va, ça tient, c'est assez robuste. Par contre, les choses qu'il faut que je vais modifier et que je recommande à tout le monde de modifier, c'est la qualité de la chaîne que vous avez. La qualité de la chaîne que vous avez, elle est faite pour encaisser le couple du vélo d'origine plus votre capacité sportive, parce que le couple étant la gouache que vous allez mettre avec vos cuisses, quoi. Faisant de la muscu, et j'aime bien le haute intensité, mettre des bonnes quiches dans les côtes, je mettais déjà pas mal de couples dans mon pédalier. Donc la chaîne devait supporter certains newton mètres que je lui demandais d'encaisser. Avec le moteur électrique en plus, je lui demande d'encaisser encore plus de couples, parce que ce qui est drôle, je vais pas vous cacher, c'est d'envoyer au maximum au niveau des cuisses en côte, et en plus de ça, de mettre l'assistance au maximum pour monter des côtes à une vitesse improbable. Et c'est ça qui est jouissif. Bon, c'est dangereux, mais moi j'adore. N'oubliez pas de mettre votre casque. D'ailleurs, parce que moi au début, j'en mettais pas, je me suis vite rendu compte que il fallait le mettre, parce que les vitesses atteintes avec un vélo électrique, franchement, même en côte, c'est assez impressionnant. Donc, de mettre une chaîne renforcée, je pense que c'est intéressant, parce que moi, je me suis rendu compte que la chaîne avait tendance rapidement à sauter quand on mettait vraiment des watts, on pouvait avoir des petits sauts de chaîne, et ça se comprend. On lui demande d'avoir une telle pression que ben voilà, si c'est la chaîne d'origine, une petite chaîne renforcée, ça lui fera pas de mal. Donc moi, c'est la seule indication que j'ai par rapport à ça. Sinon, je suis jamais tombé en panne de batterie, et l'avantage que ce soit un vélo à la base et pas un vélo conçu pour être un vélo électrique, c'est que même si je tombe en panne de batterie, et j'ai pas besoin de tomber en panne pour tester, puisque j'ai fait des sorties vélo avec assistance zéro. Donc on peut même enlever la batterie, donc on gagne directement ce que je vous ai dit, 3 kilos de on enlève 3 kilos si on met pas la batterie. Donc on se retrouve juste avec une hausse de 4 kilos sur son vélo. Donc si vous avez un bon vélo qui est déjà léger, vous allez voilà, ça restera gérable. Et si vous avez un vélo qui est déjà très lourd, ben forcément vous allez le rendre encore plus lourd. Mais ça se fait. Alors que sur les vélos, tous ceux qui ont des vélos purement électriques m'ont dit que franchement, c'était quand même chaud quand t'as plus de batterie de pédaler. Ça fait mal aux cuisses, quoi. Voilà, bon, c'est bien, vous faites du sport, mais c'est pas super agréable si vous voulez vous promener. Donc voilà, je m'arrête ici, j'ai assez parlé pour ce podcast. Je reviens sur cette fameuse vidéo sur le cortisol. Vous avez le lien en description. Vous avez également, d'ailleurs, en description, je vous ai mis l'intégralité des liens que vous pouvez suivre pour toute cette période post-confinement. Donc j'ai plein de recettes de petits déjeuners, j'ai un programme 100% pompe en attendant que votre salle réouvre, j'ai un programme 100% de poids de corps, pareil pour ceux qui veulent attendre encore que la salle réouvre, enfin qui n'ont pas le choix de toute façon. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? J'ai cette fameuse formation de 3 heures sur la perte de graisse, c'est vraiment mon best-seller de l'année. Franchement, j'ai eu beaucoup de retours positif. C'est pour moi, c'est un peu la suite de l'ouvrage que j'avais fait sur la perte de graisse. C'est vraiment la suite, etc. Enfin, en tout cas, je vous mets tous les liens en description de cet épisode, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.